Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Eh oui, il est avec nous en studio, le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, vous allez bien ?
Ça va très bien, toujours la forme.
Bon, tant mieux. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je fais mon prof Patrick, c'est-à-dire que je ne vais pas parler d'un sujet spécialement d'actualité, je vais parler d'un thème, histoire d'apporter un peu de connaissances dans l'esprit de personnes qui n'auraient pas toutes les notions économiques. Alors, je vais donc présenter un aspect important du fonctionnement des grandes entreprises, c'est la façon dont elles stockent leurs données informatiques.
Ouais.
Et là, Mathieu, je vois ta tête, j'entends même la petite voix dans ta tête, tu dis, oh là là, qu'est-ce que ça va être barbant, cette histoire.
Non, pas forcément, parce que c'est les données informatiques des entreprises, parfois c'est nos données personnelles.
Alors, t'es pas seulement un gentil garçon, tu es malin. Tout à fait, exactement, tu as déjà anticipé la suite. Alors, je vais présenter les choses autrement pour que ce soit un peu plus fun, on va dire. Aujourd'hui, on va parler du cloud.
Ouais.
Ah, tout de suite, le cloud, hein, on tend l'oreille, ça fait moderne, on se dit, ah, c'est quoi le cloud, etc., etc. Donc, j'accroche le poisson un peu plus efficacement. Eh bien, c'est la même chose, en fait, le cloud. C'est la façon dont beaucoup d'entreprises choisissent de stocker leurs données. Alors, cloud, en anglais, ça veut dire nuage. Dans les nuages, cette bonne blague. Hein, c'est chouette, c'est poétique, sauf que c'est pas dans les nuages du tout. Non. Les nuages, ça fait les petits oiseaux, l'air frais, on est loin des vilaines émissions de CO2.
Ouais,
on pourrait pas être plus loin de la réalité, en fait, avec le cloud. Hein. Explication. Le cloud, c'est d'abord le choix d'une stratégie, qu'on appelle de sous-traitance, qui consiste à confier à une entreprise extérieure une partie de son activité. En l'occurrence, confier à une entreprise extérieure le stockage de toutes les données que l'entreprise détient et qui lui sont indispensables pour fonctionner, hein, aussi indispensables que l'air que nous respirons, on revient à la métaphore. Oui, mais alors, si c'est si important, pourquoi on confie cette tâche à une entreprise extérieure ?
Bah, parce qu'ils sont plus compétents, que ça demande du matériel, etc.
T'es trop malin, c'est exactement ça. C'est parce qu'ils savent faire ça mieux que nous et moins cher. En sciences de gestion, on appelle ça une stratégie d'externalisation ou, terme plus récent, encore plus à la mode, stratégie d'impartition, confiée à une entreprise extérieure une partie de son activité. Ce choix du cloud par beaucoup d'entreprises et même des très grandes entreprises depuis 20 ans est en progression forte et constante. Parce qu'en fait, les progrès de l'informatique et l'augmentation faramineuse des volumes de données à stocker sont tellement rapides que même les plus grandes entreprises ont compris qu'il valait mieux confier ça à des spécialistes. Alors, quelques petits chiffres. On comptait en 2006 11 millions de data centers. Un data center, c'est un énorme entrepôt dans lequel il y a des dizaines ou des centaines de serveurs qui eux-mêmes stockent des quantités de données pas possibles. On est passé de 11 millions en 2006 à 18 millions de data centers en 2020, donc on voit que ça progresse. Alors un exemple parmi tant d'autres, hein, pour mettre du concret, on va dire, la société Netflix que tout le monde connaît, bon, on se doute bien que la maîtrise des technologies numériques, ça va, hein, ils maîtrisent bien.
Oui,
d'accord. Ben pour autant, ils ont choisi la voie du cloud.
Ah ouais.
Et ils ont confié leurs données à Amazon.
C'est marrant.
Et oui, c'est marrant parce que Amazon n'est donc pas que le leader ultra dominant de la vente en ligne, c'est aussi le numéro un mondial du cloud.
Ouais.
Et pour information, l'essentiel des bénéfices que réalise Amazon viennent du cloud, ne viennent pas de la vente en ligne. La vente en ligne, ça génère quasiment aucun bénéfice pour Amazon, parce qu'ils cassent les prix de partout, et puis ils ont des charges assez lourdes. Non, c'est sur le cloud qu'ils se font des bénéfices, Amazon. Alors tout ça, c'est bien joli, mais est-ce que c'est suffisant pour faire une chronique prof Patrick digne de ce nom? Tu connais mon côté pinailleur Mathieu, tu te dis qu'il doit y avoir anguille sous roche.
Il y a un sauve-queue qui devrait tomber quelque part.
Hein. Ah ouais, voilà. En fait, on va parler de deux grosses anguilles sous roche et on va laisser de côté les petites anguilles, hein, d'accord ? Donc la première grosse anguille, ça s'appelle, ça fait référence au terme de dématérialisation, économie dématérialisée. Quand on parle du numérique, on parle souvent ça, hein. C'est dématérialisé. Rien n'est plus faux, encore une fois, que ce terme dématérialisé, parce qu'il n'y a pas plus matériel que le monde numérique en général. Le cloud, c'est du matériel du début à la fin. C'est des smartphones, c'est des ordinateurs fixes, c'est des ordinateurs portables. Tout ça, c'est chez les donneurs d'ordre en amont. Et en aval, chez l'hébergeur, c'est d'énormes serveurs, comme je l'ai dit, d'énormes ordinateurs entassés dans des entrepôts gigantesques qu'on appelle des data centers. Tout ce matériel est très vorace en métaux rares. Tu te souviens les métaux rares, Mathieu ?
Bien sûr. Pour
ces métaux qui sont très polluants. Alors, on a fait une chronique sur la voiture électrique fin juin. Mm-hmm. On en a parlé. Hein. Donc, ceux qui veulent savoir, connaître l'aspect extrêmement polluant des métaux rares, eh bien, allez écouter la chronique sur la voiture électrique dans le podcast Prof Patrick dans l'émission Tous ensemble sur Calade dans radio-calade.fr. Mais tout ce matériel, c'est aussi un matériel qui est très, très vorace en énergie, qui consomme énormément d'énergie. Notamment par le fait que ces data centers, ça chauffe, en fait.
Ouais, faut les refroidir.
Voilà, il y a des frais de refroidissement qui sont incroyables, à tel point que beaucoup d'hébergeurs type Amazon vont installer des data centers dans des pays très froids.
Ah ouais,
très au nord pour bénéficier du froid environnant et donc diminuer les coûts de refroidissement.
Faire chauffer le pôle Nord.
Exactement, tout à fait. Alors, bien sûr, le progrès, c'est aussi de l'efficacité énergétique qui augmente chaque année. Hein. Chaque année, à puissance égale, les serveurs consomment 5% de moins de consommation énergétique. Donc c'est bien, ça progresse. Sauf que comme d'habitude, l'effet rebond vient gâcher la bonne nouvelle.
C'est-à-dire ?
L'effet rebond, c'est le fait qu'en fait, l'augmentation en volume d'utilisation compense largement les gains unitaires. Donc, la consommation énergétique des data centers, de l'ensemble du cloud, représentait déjà 4% de la consommation d'énergie mondiale en 2015. Et elle augmente de 5% par an. Concernant l'Europe, il y a une étude qui a été commanditée par Bruxelles, hein, l'Union européenne, qui indique qu'elle augmenterait de 28% d'ici 2030, entre aujourd'hui et 2030. C'est ennuyeux parce qu'en fait, l'objectif de l'Union européenne, c'est que le secteur du cloud atteigne la neutralité carbone en 2030, donc aucune émission nette.
Ouais.
Donc, autant dire qu'on est mal barré pour atteindre cet objectif. Ça, c'était la première anguille sous roche, hein, la consommation énergétique, le côté numérique destructeur au niveau des matériaux utilisés. Mmh. La deuxième anguille, c'est, tu l'as évoqué au tout début, car tu es malin, Mathieu.
Ah, c'est les données personnelles.
Exactement, ces données qui sont stockées, et bien, beaucoup d'entre elles, ce sont nos données personnelles à nous, à vous et moi, chers auditeurs. D'où la question qu'on va poser quand même, qui a accès à ces données qui sont stockées sur le serveur ? Ton avis ?
Mais je sais pas, j'ai peut-être peur de le savoir.
Bon, a priori,
pas tout le monde, quand même.
C'est le propriétaire de l'entreprise qui a ces données. Lui, il y a accès, bien entendu. Tu notes qu'on va laisser de côté aujourd'hui la question du pourquoi. Pourquoi l'entreprise détient nos données personnelles ? Est-ce qu'il est légitime qu'elle les détienne ? Ça, c'est une vaste question, mais on va la laisser de côté pour aujourd'hui. Ça pourrait être l'objet d'une autre chronique. En théorie, donc, l'hébergeur, c'est-à-dire Amazon pour Netflix, n'a pas le droit de se servir d'utiliser les données personnelles qu'il héberge.
D'accord, ouais.
D'accord. Sauf que. Eh bien, sauf que cette entreprise, elle est états-unienne, hein, nationalité américaine, États-Unis. Mmh. Et donc, elle est soumise à un principe juridique qui est le principe d'extraterritorialité de la loi américaine. Alors, c'est un principe génial, hein, parce que ça dit que même si les data centers qui appartiennent à Amazon sont hors des États-Unis, eh bien, le gouvernement américain peut exiger l'accès à ces données qui pourtant n'appartiennent pas à Amazon. Formidable le principe d'extraterritorialité.
Donc le gouvernement américain peut avoir accès à toutes les données.
Toutes les données dans des entreprises
des
étrangères,
entreprises américaines.
Quelles qu'elles soient. Alors, je vais donner un exemple bien marquant et bien concret pour que les auditeurs comprennent jusqu'où ça peut aller. Tout le monde connaît Doctolib.
Oui, bien sûr. Ouais.
Hein, la bonne vieille licorne française, brillante, qui désormais détient une belle quantité de nos données de santé personnelle. Pour information, d'ici 2022, il est prévu que Doctolib, qu'il y ait 90% des Français qui passent par Doctolib pour des prises de rendez-vous, des choses comme ça. Où est-ce qu'elle stocke ces données ?
Doctolib ? Chez Amazon.
Eh bien, ouais, chez Amazon.
Ouais, bien sûr.
Donc, ça veut dire que potentiellement, un jour, si le gouvernement américain décide, il peut aller piocher dans les données de santé personnelle des Français. Alors, Doctolib dit « Oh, mais elles sont cryptées. » Ouais, ouais, mon gars, t'as raison, elles sont cryptées et ils ne sauront pas décrypter, hein, les Américains. Non, on sait qu'ils sont nuls. Conclusion à tout ça.
Ouais.
Alors, première conclusion, assez simple. Hein, les entreprises qui ne veulent pas prendre le risque de voir leurs données saisies par le gouvernement américain, eh bien, il existe un hébergeur concurrent d'Amazon, évidemment moins gros, qui est français, qui s'appelle OVH.
Ouais.
OVH, toute son identité, toute sa différenciation se fait sur l'assurance que les données qu'ils stockent pour leurs clients sont vraiment protégées, notamment des appétits de gouvernements comme les Américains. Bon, alors tu vas me dire, ouais, mais OVH, il y a 6 mois, il y a leurs entrepôts qui ont brûlé.
Je n'osais pas en parler. Ouais.
Mais si, parlons-en. Ben oui, c'est la vie comme ça. Des fois, on se plante. Des fois, on perd les données de ses clients. Bon, ouais. C'est pas bien pour l'image. Hein. Mais ça fait rien. C'est quand même une entreprise intéressante, OVH. Mais bon, Les conclusions, c'est pas là. Première conclusion, et si on réfléchissait à l'utilité réelle de tout ce que nous stockons ? Les volumes immenses concernent des données qui n'ont à peu près aucun intérêt. Des vidéos à la con, des films, et les évolutions vers la 5G et l'Internet des objets dont on a parlé il y a quelques temps. Ça va multiplier les volumes, ça va charger la barque, mais dont on sait pertinemment que ça sera encore une fois, pour la plupart, des données inutiles.
Bah, des photos de chats avec des chapeaux.
Voilà, tisanneries. Et ça, ça a des conséquences de consommation énergétique et donc de réchauffement climatique terribles. Deuxième conclusion, et si on commençait à pourrir la vie à tous ceux qui stockent encore et encore nos données personnelles ?
Ah oui, comment on peut faire ça ?
Bah déjà, on peut le faire tous les jours et je suis sûr que tu le fais ou pas, sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu vas sur un site, le site te propose d'accepter ou de refuser ces cookies qui servent à utiliser tes données. Eh bien, il est très simple, il s'agit de cliquer « refuser » systématiquement.
Ouais.
Et là, c'est fini, le site ne peut pas collecter vos données personnelles. Deuxième chose qu'on peut faire également, alors là, je vais faire une petite promo d'une start-up française que j'ai découvert il y a peu de temps. On peut découvrir l'offre géniale d'une start-up qui s'appelle Yodé, qui est Toolzen, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Yodé, c'est une start-up qui vous propose des smartphones équipés d'un système d'exploitation qui, tiens-toi bien, bloque totalement toutes les tentatives de captation des données personnelles qui sont dans le smartphone. Ouais. Ça bloque tout. Mm-hmm. C'est vraiment un truc génial. Votre smartphone devient ainsi l'arme fatale pour se défendre face à tous les Big Brother qui veulent bouffer vos données personnelles. Donc je mettrai dans le podcast le lien pour aller voir cette entreprise. Alors on pourrait dans l'absolu installer le système d'exploitation sur son smartphone, mais c'est d'une effroyable complexité. C'est pour ça qu'ils préfèrent nous vendre soit du neuf, soit du reconditionné avec leur système installé. Donc moi je conseille à tout le monde d'aller chez Yodé et d'acheter un smartphone chez Yodé. Et là, vos données dans les smartphones, elles restent chez vous.
Elles restent protégées, très bonne
exactement,
idée.
J'en ai terminé Mathieu.
Je rajoute l'idée de supprimer ces vieux mails qui ne servent à rien et qui remplissent les data centers, en fait.
Totalement.
Qui font
totalement.
De l'énergie pour
ouais,
eux.
Ouais.
Ça peut être
tout à fait.
Merci beaucoup pour ces conseils, Prof.
C'est un plaisir.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.